Bonjour à toutes et tous, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui, Sébastien et moi-même, et Pierrot à la technique, pour notre nouvelle édition de l'Assiette Gomez. Générique. Cette fois encore, on va essayer de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Si vous étiez à l'écoute de notre première émission, il ne vous a pas échappé que le thème musical fil rouge était la musique britonne. En effet, mon co-religionnaire étant très fan de la perfide Albion et de sa musique, il vous avait choisi quelques morceaux emblématiques de ce que les Anglais font le mieux avec le rugby, la musique. Changement de programmateur, changement d'ambiance, cette semaine avec un retour sur le continent et un choix tout à fait personnel de la nouvelle scène française. Tantôt rock, tantôt pop, nous allons vous faire écouter et peut-être découvrir, voire redécouvrir, quelques noms qui s'installent doucement mais sûrement dans le paysage musical outre-Quiévrain. Pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, on l'a découvert il y a déjà quelques années, il s'était fait connaître pour avoir écrit ceci.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière.
Il est le récent vainqueur des dernières victoires de la musique dans la catégorie meilleur artiste masculin. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Benjamin Biolay. Certes, ce n'est pas à proprement parler de la nouvelle scène dont il s'agit ici, mais celui-là semble bien en être le patron désormais. Je vous propose de réécouter son morceau « Comment est ta peine ?» et avec une attention particulière à la rythmique, où vous reconnaîtrez peut-être la musique des années 80 dans la ville de Manchester. « Comment est ta peine ?» Benjamin Biolay.
La mienne s'en vient, s'en va.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première chronique de l'émission, je me suis intéressé au cinéma à travers trois sujets qui ont piqué ma curiosité. D'abord, la fin de la censure en Italie. Eh oui, nous sommes en 2021 et la censure existait toujours dans ce pays. On croit rêver. Le gouvernement italien vient en effet de mettre au rebut les ciseaux ayant mis à l'index des chefs-d'œuvre du cinéma comme Le Dernier Tango à Paris avec Marlon Brando ou Rocco et ses frères avec Alain Delon, victimes comme tant d'autres de la censure qui sévissait depuis 1914. Dorénavant, il ne sera plus possible d'interdire la sortie en salle d'un film ou de la conditionner à des coupes ou modifications sur base de motivations morales ou religieuses. En lieu et place de ce couperet moralisateur, sera mise en place une commission de classification des œuvres cinématographiques auprès de la Direction générale du cinéma du ministère de la Culture. Cette commission, qui détermine à quelle tranche d'âge les films sont adaptés, est composée de 49 membres allant d'experts du cinéma et de la protection des mineurs à des représentants des associations de parents et des groupes de défense des animaux. Avec l'abolition de la censure au cinéma, nous sortons définitivement du système de contrôle et d'intervention qui permettait à l'État de s'immiscer dans la liberté de création des artistes. C'est ainsi résumé dans un communiqué le ministre de la Culture, Dario Franceschini. Il était temps. Pour info, depuis 1944, selon un recensement réalisé par Ciné Censura, une exposition virtuelle en ligne, promue par le ministère de la Culture, au total 274 films italiens, 130 films américains et 321 venant d'autres pays, ont été censurés depuis 1944. Plus de 10 000 furent autorisés à sortir en salle après des coupes et modifications. Le dernier cas important de censure remonte à 1998 avec le film « Toto qui vécut deux fois » de Daniel Cipri et Francesco Marescuetti, situé dans un palerme monstrueux et apocalyptique, grouillant de personnages grotesques et blasphémateurs, et qui fut attaqué violemment par les milieux catholiques. Un peu de liberté dans ce monde ne fait pas de mal. En Chine, par contre, la censure a toujours de beaux jours devant elle. Pour preuve, les foudres qui s'abattent sur la jeune cinéaste chinoise, Chloé Zhao, qui a remporté le 1er mars le Golden Globe de la meilleure réalisatrice pour son film « Nomadland ». Une première pour une personne d'origine asiatique. Mais très vite, l'opinion chinoise, comme par enchantement, s'est retournée contre elle, la réalisatrice qui vit aux États-Unis, n'ayant franchement jamais été tendre avec le pouvoir chinois. Malgré un lion d'or à Venise, Nomadland est désormais appelé par les Chinois à être boycotté. Douban, la société qui allait proposer Nomadland en téléchargement, a rapidement cessé toute promotion et le hashtag Nomadland a disparu des réseaux sociaux depuis le vendredi 5 mars. Censuré. Le film sortira-t-il le 23 avril ? C'est peu probable. Dire du mal de la Chine a un prix, notamment en cette soi-disant glorieuse année du centenaire du Parti communiste chinois. Et ceux qui s'y risquent, le paient. Bien malheureusement. Enfin, un film qui lui ne risque pas d'être censuré, c'est Godzilla contre Kong. Ce blockbuster pourrait bien marquer le futur des salles de cinéma. Depuis le début de la crise sanitaire, l'industrie du cinéma a cherché un sauveur qui allait rendre le public impatient de retourner dans les salles obscures. Et visiblement, pour célébrer le grand écran, il aura fallu que deux colosses s'y inscrivent dans un combat titanesque. Sorti ce 31 mars sur le sol américain, ce film aura récolté 50 millions de dollars en 5 jours. Le public US s'est donc rendu en masse vers les multiplexes pour voir le nouveau film de la Warner, qu'il a fait sortir simultanément en streaming via la plateforme de la chaîne télé HBO, connue pour la série Game of Thrones. Une cohabitation pourrait donc être possible entre la salle de cinéma et le streaming à la maison. Après tout, une sortie cinéma, c'est un véritable loisir, un pouvoir culturel et un événement collectif. Visiblement, le streaming n'a pas cette force fédératrice et c'est très bien ainsi. En Europe, la sortie du film de la Warner est prévue en mai 2021, si tout va bien. Donc, Godzilla contre Kong, tout un programme.
Merci mon très cher Sébastien. J'ignorais tout à fait deux choses de ton exposé. J'ignorais que la censure en Italie avait cessé Et surtout, j'ignorais qu'elle était toujours appliquée. Comme quoi, on peut être un des berceaux de l'Europe, le continent le plus libéral du monde, et être un tantinet rétrograde. Il est très important de garder un œil ouvert, si pas les deux, sur le monde du cinéma, les salles étant fermées depuis une année. Il convient que nous soyons tous prêts à retourner dans les cinémas, bien sûr, mais aussi dans les théâtres, les musées, les salles de concert. Cinéma, théâtre et tous les artistes du vivant qui continuent à vivre malgré les restrictions liées à leurs activités. On se souvient de la tentative malheureuse de Quentin Dujardin qui, bien que les autorités le lui avaient interdit, avait voulu tenir un concert dans la petite église du village de Crupet. Cette initiative, et surtout son interdiction, est interpellante à plus d'un titre, car Quentin Dujardin voulait tenir un concert dans un lieu où l'exercice du culte était permis devant 15 personnes, jauge que n'avait pas dépassé Quentin Dujardin. Ce qui est, à mon sens, interpellant dans cette décision, c'est que ce n'est pas le lieu qui a causé l'interdiction, puisqu'il s'y tient des messes toutes les semaines. Ce n'est pas la jauge non plus, puisque Quentin Dujardin ne dépassait pas les 15 personnes, mais plutôt la nature de l'orateur. Un curé, ok, un artiste, pas ok. Qu'est-ce que nos autorités reprochent donc tant à nos artistes, à nos poètes, nos saltimbanques, nos rêveurs, nos créateurs, nos empêcheurs de tourner en rond? Qu'ont-ils de tellement infréquentable que lorsqu'ils ont le désir de pratiquer leur art, leur métier, comme un curé dans son église, les autorités sont obligées d'envoyer la maréchaussée pour le faire taire? Musellement? Censure? Ont-elles peur que les artistes dénoncent les manquements ou les carences de la gestion de cette crise? Qui pourrait leur reprocher? Qui pourrait dire aujourd'hui, avec moi, ça ne se serait pas passé comme ça? Qui pourrait dire aujourd'hui, avec moi, il y aurait eu des masques dès le premier jour? Avec moi, on aurait des vaccins? Qui peut? Personne. Les autorités, quelles qu'elles soient, ont-elles peur de la critique? De la parole libre des artistes? Nous pouvons, nous devons faire le constat de ce qui est marché, comme de ce qui n'a pas marché, ou a moins bien marché, afin d'améliorer nos réactions lors d'une éventuelle prochaine pandémie. Mais à l'humilité que la population doit à l'égard des décideurs, doit répondre l'humilité des décideurs qui ont été élus par cette population. Car on le sait depuis Beaumarchais, sans liberté de blâmer, point d'éloge flatteur. Pour suivre, nous allons écouter un petit jeune qui monte, pas mal même, avec son look pas possible et sa coupe de cheveux pas possible non plus, avec un deuxième album qui confirme tout le bien que l'on pensait de lui il y a 2 ans, je vous propose d'écouter le nouveau morceau du dernier album d'Eddie de Pretto. Cette chanson est une illustration de son vécu alors qu'il cachetonnait à Paris, en quête de gloire et de reconnaissance, en animant les soirées sur les bateaux-mouches. Le morceau s'appelle donc tout naturellement « Bateau-mouche », Eddie de Pretto.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau-mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume cello et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qu'est-ce que les centres l'étape. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, beau. Je découvrais Paris,
je découvre l'étranger.
Je viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais.
Je viens avec une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Quand je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, début, début. Je devais quitter mes Nike et laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, m'en montrer ce que je vaux. Montrer combien je fake et j'entre le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau. En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne. Je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, début, début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
En ces temps de Covid et de mesures sanitaires, rien de tel pour s'occuper ces derniers temps que de se rendre dans un musée ou une expo. Envie de vous plonger dans une expérience immersive, de renouer avec votre âme d'enfant, de vous promener et d'admirer des tulipes par milliers. Si vous cherchez encore une activité à faire en famille, avec vos kids ou des amis, voici 5 expos à ne pas manquer. Pour les amateurs de peinture, Klimt, The Immersive Experience. Un an après l'exposition immersive sur Monet, la galerie Horta, située à Bruxelles, invite à présent le public à découvrir l'œuvre du peintre Gustav Klimt. Cette expérience immersive à 360 degrés vous plonge dans l'univers unique de l'artiste, un véritable spectacle avec plus de 200 peintures et dessins projetés sur les murs, le tout accompagné d'une musique spécialement composée pour l'occasion. Cette expo se déroule du 24 mars au 5 septembre 2021 à la galerie Horta, rue du Marché aux Herbes, 116, à 1000, Bruxelles. Pour les amoureux de la mode, on vous conseille l'expo Masculinities au musée Mode et Dentelle de Bruxelles. C'est la mode masculine qui est mise à l'honneur pour la première fois dans un musée belge. Masculinities retrace l'histoire et l'évolution de la garde-robe masculine du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Une expo qui brise les codes et qui ravira les plus fashion addicts d'entre nous. Quand ? C'est du 28 août 2020 au 13 juin 2021 ou au musée Mode et Dentelle, 12 rue de la Violette, à 1000 Bruxelles. Pour les fans de pop art qui se tient actuellement, une exposition sur Andy Warhol, intitulée Warhol, The American Dream Factory. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez avant qu'il ne soit trop tard. Warhol, The American Dream Factory est l'occasion de redécouvrir les plus grandes œuvres de cet artiste. L'exposition retrace les 40 années de carrière de celui-ci, surnommé également le pape du pop art. Exceptionnellement prolongée jusqu'à ce dimanche 18 avril, l'expo est organisée à la Beauvrie à Liège, l'occasion aussi d'une balade en bord de Meuse. Si vous avez une âme d'enfant, alors n'hésitez pas à visiter Midam, itinéraire d'un kid de Bruxelles. Pour les plus petits ou pour les plus nostalgiques d'entre nous, l'expo Midam bat toujours son plein au musée de la BD à Bruxelles. Une plongée dans les dessins de l'auteur belge Midam et de son héros fétiche, Kid Paddle. L'exposition met en lumière l'univers humoristique de l'auteur en retraçant son parcours de ses débuts jusqu'à ses œuvres les plus récentes. Un joyeux univers à redécouvrir. Quand, du 29 septembre 2020 au 28 août 2021, ou au musée de la BD, 20 rue des Sables, à 1000 Bruxelles. Enfin, si vous aimez la nature, gambader dans les jardins, convergez alors vers Floralie Brussels. Cette exposition florale se tient à Dilbeek, dans le Brabant flamand. Après une édition 2020 avortée pour cause de Covid, l'exposition florale de Floralia Brussels est en effet de retour pour une 18e édition. C'est dans le parc du château de Grand Bigard que vous pourrez admirer une grande variété de fleurs de printemps à bulbes, tulipes, jacinthes, narcisses et autres, s'étalant sur plus de 14 hectares. Une belle balade à faire en famille ou en amoureux, quand, du 3 avril au 2 mai 2021, au château du Grand Bigard, Isidore van Beverenstraat 5 à 1702 Dilbeek.
Pour un nouveau morceau illustrant le renouveau de la scène française, je propose d'écouter un artiste que j'adore tant il n'hésite pas à déposer ses tripes sur la table. Des morceaux forts, engagés et beaux, à l'image de leur auteur-compositeur. Il s'agit de Ben Mazoué et de son morceau « Quand je marche ». «
que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins. Faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser. Je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser. Je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis à qui j'ai renoncé par amour et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste.
Ah, qu'il est doux de ne rien faire quand le monde s'agite autour de nous. Prendre le temps de flâner, de s'arrêter, de se coucher sur le sol et de regarder les étoiles ou les nuages, et se dire qu'on a de la chance. Merci pour ce conseil, Ben Mazoué. S'autoriser à ne rien faire, sans culpabiliser. Saviez-vous que cet art de vivre, qui nous vient des Pays-Bas, Pays-Bas qui ne sont pas connus que pour nous fournir de la weed de haute qualité, s'appelle le Nixen. Des petits gestes qui ont de nombreux bienfaits sur notre santé mentale. Ne rien faire est la seule chose à faire. À l'image du yig danois, qui invite à enfiler ses grosses chaussettes et à se mettre devant la cheminée pour un moment cocooning, ou du lagom suédois, basé sur la simplicité et la modération en termes de consommation, le Nixen prône le lâcher-prise. Et va même encore plus loin. Cet art de vivre consiste à ne rien faire sans éprouver une once de culpabilité. Les Néerlandais qui cherchent constamment à améliorer leur bien-être et à réduire leur stress quotidien y excellent. Leur nouveau mantra vise à se détacher des tâches quotidiennes loin des écrans. Ce concept rejoint celui plus global de la slow life, Le but, parvenir à un état de calme et de tranquillité. Ce n'est pas l'art de la glandouille, mais plutôt celui de la pleine conscience. Le Nixen se pratique seulement 10 à 15 minutes par jour. Pendant ce laps de temps, il est primordial de faire le vide absolu dans sa tête, mais surtout d'être assidu si vous voulez en constater les effets. Votre cerveau peut alors prendre du repos loin des problèmes, du stress, du quotidien, avant de reprendre ses activités de plus belle. Le Nixen ne laisse pas de place à la culpabilité. Se laisser aller quelques minutes par jour ne perturbant rien votre quotidien, qui peut être chargé. Au contraire, ce laps de temps va vous permettre de recharger vos batteries pour continuer votre journée dans une meilleure forme qu'hier. Ce nouveau concept aidera même à booster votre créativité et à être sur le long terme plus productif. Si cette pratique vous intéresse, n'hésitez pas à taper Nixen sur votre ordinateur. N-I-K-S-E-N. Et ensuite, laissez-vous aller. Alors là, je vais vous demander de vous arrêter un petit peu plus longtemps. Sébastien, est-ce que tu reconnais ceci ?
Je dirais que c'est le groupe La Femme et son titre Sur la planche.
Pas mal, je vois que tu es fan de la pub de la Renault Captur et tu as reconnu La Femme. Et ceci, est-ce que tu le reconnais ?
Je pense que c'est toujours La Femme et son morceau Où va le monde ?
Pas mal, on en écoute un petit extrait avant de passer à un morceau plus conséquent.
Mais où va le monde ? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis ? Pourquoi je me méfie ? Qu'a-t-on pu bien faire ?
Mon prix, je ne connais pas du tout.
Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner.
Il s'agit en effet du groupe La Femme, une véritable révélation auditive en France de ces 5 dernières années. Ils reviennent en force et en pleine forme avec un nouvel album, Paradigme, et je vous propose d'écouter leur dernier titre, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans par La Femme.
Et pourquoi je m'étais
Les vacances de Pâques nous donnent l'occasion de faire le point sur les nouvelles sorties en jeux vidéo. Tout d'abord, Story of Seasons, Pioneer of the Olive Town, un jeu de simulation de ferme où le joueur aura pour mission de redonner vie aux terres agricoles d'Oliville. Il pourra découvrir de nouveaux animaux ainsi que des végétaux et devra améliorer sa maison pour développer la ville. C'est sorti le 23 mars 2021 sur Nintendo Switch. Ensuite, Overcooked, All You Can Eat, une compilation des deux épisodes de la licence. Le jeu propose du contenu supplémentaire avec l'ajout de deux nouveaux chefs cuisiniers et de 7 niveaux inédits. La sortie sur PS5 et Xbox Series X du titre permet également un affichage optimal avec des temps de chargement réduits. C'est également sorti le 23 mars sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Autre sortie, Tales from the Borderland, un jeu épisodique d'aventure où les héros, dont vous faites partie, tentent d'ouvrir une chambre forte. C'est un jeu où il est possible d'explorer le monde et d'acheter du matériel au milieu d'une narration riche et de scènes d'action en quantité astronomique. C'est sorti sur Nintendo Switch. On continue avec Oddworld Soulstorm, une suite qui reprend juste après que vous ayez vaincu Moluch the Glucon. Abbé, le héros du jeu, se retrouve alors sans ressources dans le désert en compagnie de 300 Mudokons émancipés. Le jeu est gratuit pour les détenteurs de la PS5 via les jeux gratuits sur PlayStation. C'est sorti en avril sur PS4, PS5, Xbox One et PC. Autre nouveauté, Lost World Beyond the Page, un jeu de plateforme et de narration qui nous fait voyager dans le monde fantastique d'Estoria. Dans ce monde existant à l'intérieur du journal d'une petite fille, il vous faut manier les mots afin de venir à bout de différents puzzles que nous propose le jeu. C'est sorti sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Enfin, dernière sortie, The Legend of Heroes, Trail of Cold Steel 4. C'est toujours le chic pour choisir des noms compliqués. Ultime volet de l'arc Cold Steel, The Legend of Heroes, eh bien, ça nous montre l'Empire Erebonien au bord de la guerre. Ayant lieu après la fin du numéro 3, les héros se retrouvent face à la totalité des forces de l'Empire. Une bataille épique s'annonce. Le jeu est également sorti sur Nintendo Switch le 9 avril 2021. Bref, de quoi passer son temps en cette période de confinement.
Merveilleux accent, Sébastien. Bravo, merci.
Après deux mois, on va parler maintenant en sortie littéraire, février et mars, très riches en parutions, les plus diverses et en tout genre, le mois d'avril 2021 ne s'annonce pas moins chargé pour autant. Beaucoup de livres ont retenu notre attention, voici une sélection totalement subjective. Tout d'abord, Orm Shadow, de Priya Sharma, chez Le Bélial, une collection Heures de Lumière, paru ce 8 avril. On peut dire que Aurélien Polis s'est surpassé dans ce récit initiatique sous l'ère victorienne et comptant notamment parmi les héros un dragon en chair et en feu. Golden State de Ben Winters chez Actu Science Fiction, paru aussi le 16 avril. Le roman se déroule dans une Californie alternative où mentir est puni par la loi et met en scène un policier un peu spécial. De quoi attiser votre curiosité. Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro chez Actu Science-fiction, là aussi paru le 16 avril. Le roman se situe dans le même univers que le formidable Royaume de Vent et de Colère et parlera de l'histoire de Silas, même si les deux romans sont indépendants. Enfin, Le sang des cités de Guillaume Chamanadian aux forges de Vulcain, paru également le 16 avril, décidément. Il s'agit d'un projet littéraire à quatre mains et de deux trilogies dans un univers commun, celui de la Tour de Garde. Capitale du Sud est écrit par Guillaume Chamanadian et Capitale du Nord par Claire Duvivier, autrice d'Un long voyage. De quoi meubler cette période de pandémie.
Y a-t-il meilleur passe-temps que celui de lire? Merci pour ces propositions, Sébastien. Le monde de l'édition étant tellement dense et les sorties nombreuses qu'un éclaircissement, même partiel, est toujours de bon augure. Je ne vous cacherai pas que j'ai profité de cette période un peu trouble pour lire un peu moi aussi. Aucun plaisir n'est supérieur, à mon goût, à celui de découvrir un auteur, son style et son univers. Je profite de votre intervention littéraire pour prendre le temps d'une petite pensée pour notre ami Olivier Wehrich, qui par un méchant coup du sort a perdu ses stocks de livres. Olivier est un forçat du travail qui aime passionnément son métier. Je ne doute pas que sa pugnacité lui permettra de se remettre en selle bien vite et qu'il ne manquera pas alors d'alimenter nos librairies favorites d'ouvrages que nous aimons tant. Je pense à lui d'autant plus que le dernier ouvrage que j'ai acheté en librairie, car je n'achète pas mes livres sur Internet, moi monsieur, et que je suis en train de terminer, est un livre des éditions Wehrich portant le titre « Béatrice de Dante à Orval », écrit par le journaliste bien connu des spectateurs de TVLux, David Pierson. Véritable travail d'enquête sur des faits qui se sont passés il y a bientôt un millier d'années, David Pierson nous dévoile la véritable histoire de la naissance d'Orval et nous présente les différents intervenants au travers d'une fresque historique somptueuse et haletante. C'est un travail de recherche minutieux et complet que David a accompli pour nous faire découvrir l'histoire d'un morceau de notre patrimoine. Quand vous découvrirez sa bibliographie, les bras risquent de vous en tomber tant elle est dense. Bravo à lui pour le travail de recherche, d'écriture et de synthèse. Bien des amateurs d'Orval, le lieu, pas la bière, ne connaissent pas la jeunesse de cette abbaye et les conflits liés à cette époque. Ce sera lacune réparée avec la lecture de ce livre en dégustant, pourquoi pas, un Orval, la bière, pas le lieu. En début d'émission, je vous disais que nous allions essayer de vous présenter une émission sérieusement sans se prendre au sérieux. Quel meilleur groupe de la scène française pouvais-je bien vous proposer pour illustrer mes propos ? Je vous propose d'écouter ce trio fabuleux à l'imagination débordante. Il s'agit du groupe 47 Terres et de leur morceau « On avait dit ».
Hey, on n'aura jamais le temps de tout faire. On n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de foot comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test, mais je connais pas la rue. Mais à force de vous écouter, au plus j'y plaquette à couper, je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait faire les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre taf, on est prêt pour se parler. C'est la mienne. S'il y a une vie après la mort, je sais pas si je referai la même. S'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs dodé dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 piges? Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferai moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascine. Avant de signer, ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de les saigner avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre taf, on est prêt pour se parler.
Cette terre, on avait dit. Je vous renvoie aussi vers le clip que vous pouvez regarder sur une plateforme bien connue de streaming. Le clip, lui aussi, vaut tout son pesant de cacahuètes. Encore une petite devinette, mon cher Sébastien. Est-ce que tu reconnais ceci ?
A song for the broken hearted and anyone who wants it. A song of fine, I'm always writing.
Je suis pas sûr, mais je dirais que c'est Lilywood and the Prick. Je crois que la chanson, c'est A Song.
Tu es définitivement incollable aujourd'hui. En effet, il s'agit bien de Lilywood and the Prick avec ce morceau, ce tube ultra-planétaire qui s'appelle A Song. Leur dernier album est déjà sorti il y a quelques mois maintenant, mais si on parle de nouveaux courants de la scène indépendante française, je m'en voudrais de ne pas vous faire écouter ou réécouter ce très joli morceau issu de leur deuxième album, Lilywood and the Prick, Prayer in Sea.
Dès que les frontières seront réouvertes, nous vous invitons à vous rendre à Paris, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, parfois appelé Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, bref, les civilisations non européennes, et situé dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine, qui lui donne son nom et au pied de la Tour Eiffel. Le projet, porté par Jacques Chirac, a été inauguré en 2006. La fréquentation se situe à près de 1 500 000 visiteurs en 2014 et a franchi en 2016 le cap des 10 millions depuis son ouverture, ce qui le place parmi les musées les plus fréquentés au monde dans sa catégorie. Le plus grand bâtiment du musée, recouvert de façades vitrées sérigraphiées et partiellement habillé de bois, abrite principalement les expositions permanentes et temporaires. Vous pouvez vous rendre au premier étage à partir d'une installation d'art vidéo jusqu'au plateau des collections permanentes situées au premier étage du bâtiment. En fait, ce premier étage offre des points de vue sur les salles en contrebas. La galerie d'exposition permanente est longue de 200 mètres. Elle est plongée dans la pénombre par des façades vitrées afin que la lumière du soleil n'attaque pas les pigments des objets exposés les plus fragiles, constitués de matières organiques, végétales ou animales, fibres, peau, plumes. Ceux-ci sont alors éclairés par des spots dans une scénographie à l'esthétique affirmée, voulue par l'architecte, tirant sur des tons d'ocre, de rouge et de noir, qui vise à évoquer pour certains d'entre eux leur charge spirituelle originelle. La galerie est un immense espace non cloisonné de 5300 m2, traversé par un couloir gainé de cuir où de petites cellules multimédia permettent de consulter certains des 150 programmes vidéo du parcours muséographique. Il s'ouvre au nord également sur près de 30 salles thématiques correspondant aux boîtes colorées visibles à l'extérieur. Si vous allez à Paris, le musée du Quai Branly est un must incontournable d'une beauté incomparable.
Absolument Sébastien, je vous rejoins tout à fait, j'adore ce musée, il est magnifique. Le musée en lui-même est une véritable œuvre d'art qui abrite d'autres œuvres d'art. Un jeune artiste protéiforme maintenant, Gaël Faye, musicien talentueux et jeune écrivain auréolé d'un prix Goncourt des lycéens pour son roman « Petit pays ». Roman qui a fait l'objet d'un film, joué notamment par Jean-Paul Rouve. Musicien, écrivain, poète, Gaël Faye n'a pas fini de faire parler de lui tant son talent ruisselle de sa personnalité. Je vous propose d'écouter avec lui « Méchant lundi ».
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi. Chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux.
Comme un lundi.
S'achève au compteur, s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité, pas se contenter mais tenter, sinon t'es inventéré. Chauffer, chauffer, va t'entendre les pulsations dans tes tympans. Chanter, chanter, c'est comme encore. Écoute, écoute, lundi méchant.
Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Pour cette dernière chronique, j'ai choisi de vous parler de sorties BD. Le printemps commence de belle manière du côté de la bande dessinée, avec les sorties de Chez Toi, de Sandrine Martin, des Chimères, de Vénus et de l'indispensable Dessiné encore, de Coco. Dessiné encore, un témoignage fort, bouleversant et indispensable. La dessinatrice Coco revient à travers un roman graphique de près de 350 pages, sur sa vie depuis cette poignée de minutes qui ont bouleversé sa vie. Début 2015, Coco était dessinatrice de presse pour Charlie Hebdo. Le 7 janvier, elle assistait à la réunion de rédaction. En sortant fumer une cigarette, elle est tombée sur deux hommes cagoulés et lourdement armés, les frères Kouachi. Sous la menace, elle a fait le code pour ouvrir la porte de la rédaction de Charlie Hebdo aux terroristes. 6 ans plus tard, dans Dessiné encore, Coco évoque ses souvenirs et ses anecdotes au sein de Charlie. Elle revient sur cette journée du 7 janvier 2015, sur les quelques heures qui ont précédé le drame et dont elle se souvient du moindre détail, sur les jours et les semaines qui ont suivi, mais aussi et surtout sur le combat qu'elle mène depuis pour survivre. Coco livre un album terriblement courageux et profondément touchant. C'est un témoignage fort, bouleversant et indispensable. Il permet de ne jamais oublier cette journée du 7 janvier 2015 et rend un bel hommage à l'esprit Charlie et aux victimes de cet attentat islamiste. Dessiné encore, de Coco, aux éditions Les Arènes BD, 345 pages, 28 euros. Après le Château des Étoiles, place aux Chimères de Vénus. Depuis quelques années, Alex Alice fait voyager les lecteurs avec sa fabuleuse saga Le Château des Étoiles. Ce printemps, c'est un nouveau voyage qui commence avec la sortie du premier volume des Chimères de Vénus, un récit parallèle qui se déroule dans l'univers du Château des Étoiles. Écrite par Alain Hérol, le scénariste des Indes fourbes, et magnifiquement illustrée par Étienne Jung, cette nouvelle série propulse les lecteurs sur une planète encore sauvage et remplie de mystères, la belle Vénus. Construite autour de nouveaux personnages, ce spin-off peut se lire indépendamment du Château des Étoiles. Néanmoins, il faut admettre qu'elle s'apprécie davantage lorsqu'on connaît l'univers d'Alex Addis. Le dessin d'Étienne Jung est un véritable régal pour les yeux et donne même l'impression d'être plongé dans un dessin animé de Walt Disney. Quant au scénario, nous n'en sommes qu'au premier pas sur Vénus, mais la série s'annonce d'ores et déjà captivante. Vivement la suite, Les Chimères de Vénus, tome 1, de Hérol et de Jung, édition Rue de Sèvres, 56 pages, 15 euros. Enfin, Chez toi, des destins croisés, de Homs à Berlin. Mona est une jeune femme syrienne, originaire de Homs. Comme beaucoup de ses compatriotes, elle a décidé de fuir son pays. Enceinte et accompagnée de son conjoint, elle se retrouve dans un camp en Grèce dans l'espoir de rejoindre l'Allemagne. Monica, quant à elle, est grecque. Depuis peu, elle travaille comme sage-femme chez Médecins du Monde. En avril 2016, elle rencontre pour la première fois une patiente syrienne qui deviendra son amie. Chez toi, raconte le destin croisé de ces deux femmes. Pour construire cette histoire, Sandrine Martin s'est inspirée d'une étude anthropologique sur les relations entre femmes enceintes migrantes et personnel médical aux frontières de l'Europe. De Homs à Berlin, en passant par Athènes, le résultat est un récit croisé, poignant et inspirant. Enfin, l'album se termine par un petit cahier éclairant, instructif et illustré par de nombreuses photos prises en Grèce qui revient sur la genèse de ce projet. C'est sorti le 7 avril, Chez toi, de Sandrine Martin, édition Casterman, 208 pages, 23 euros. Voilà, j'ai fini, mon cher Eric.
Merci Sébastien, voici un tour d'horizon vraiment très 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 dense. Merci pour tout cela. Je ne voudrais pas que nous nous quittions sans écouter Feu Chatterton. En effet, la scène rock française qui peine un peu à se réinventer et surtout à se trouver un nouveau leader. Avec Feu Chatterton, nous avons un groupe qui cherche. Moins explosif que Chaka Punk, certes, mais pas moins inventif dans un autre registre. Feu Chatterton est un groupe charnière qui fait la synthèse du passé et annonce l'avenir de la scène rock française. On écoute avec eux le morceau « Nouveau Monde ».
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central.
ça tape dans les bras, ça vaut le poids, se prendre dans les bras, ça tape dans les bras.
Gomez se termine pour cette deuxième édition. On espère revenir bientôt vers vous pour d'autres annonces, d'autres découvertes ou d'autres redécouvertes. La scène française indie, ce n'est pas que ça, bien évidemment. On aurait pu vous faire écouter Suzanne ou encore notre artiste belge formidable Angèle ou encore plein d'autres choses, mais l'émission ne dure qu'une heure et donc on termine cette fois-ci avec Feu Chatterton. Je salue Sébastien au micro, Pierrot à la console. Si vous avez aimé l'émission, eh bien parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis. Si vous l'avez détesté, eh bien allez-y, parlez-en à vos ennemis, parlez-en surtout. Au plaisir de vous retrouver à tout bientôt et comme l'on dit dans les bonnes émissions, à ciao, à bientôt.